votre santé. 123e émission de l'Association citoyenne pour un centre de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditeurs et auditrices de RVM. Nous voici à nouveau pour une émission avec l'invité que nous avions la dernière fois, le docteur Loïc Penn.
Bonjour.
Nous avons évidemment...
Daniel Cléo, bonjour les amis du 93-7.
Et Christian Max.
Et moi-même Hélène Mazur, pour continuer nos questions à notre médecin urgentiste. Entamer, nous avons finalement encore deux grands sujets, puisque la dernière fois, c'était plutôt un tableau de la situation catastrophique des hôpitaux de notre proximité, Senlis, Creil, Compiègne, on n'a trop rien dit là-dessus. Mais donc la question que se pose tout un chacun, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui remonter la situation? Parce qu'on nous dit le temps de former, le temps de ceci, etc., ça ne peut pas se faire en un jour, donc est-ce qu'on commence? Donc ça, c'est notre premier grand sujet. Et le deuxième, nous sommes encore en période de pandémie. Donc, nous aurons des questions relatives à la pandémie. Donc,
sur des chiffres qui nous interpellent.
Exactement. Voilà. Eh bien, docteur, est-ce que vous avez, je le pense, vous êtes membre du personnel de l'hôpital de Creil, et nous savons qu'il y a eu des mobilisations multiples, longues, etc. Vous portez certainement des solutions à court terme et à moyen terme pour relever la qualité et la vie de l'hôpital.
Alors, oui, mais déjà, je vais réagir à la première phrase que vous avez prononcée qui disait on nous dit il faut le temps de former, donc c'est 10 ans. Ouais, sauf que ça fait 30 ans qu'on dit ça. C'est-à-dire qu'on aurait eu le temps déjà de les former trois fois, les personnels dont on a besoin, parce qu'à un moment donné, il faut quand même pas avoir la mémoire courte. Moi, ça fait 30 ans, alors d'abord comme syndicaliste étudiant, puis depuis 20 ans comme syndicaliste à l'hôpital, que l'on dit il faut former plus de personnel, il faut faire exploser le Murus Clausus. Alors certes, ils l'ont supprimé, mais ils n'ont absolument pas mis les moyens de former plus d'étudiants à la sortie de la première année. Donc, en fait, il est toujours là, virtuellement.
En 71 1971, il a été...
Oui, je ne sais plus, c'est 71 ou 73, j'avoue que je ne sais plus.
C'est bon.
Mais à l'époque, il était de 10 000. Moi, quand je suis passé, quand j'ai fait ma première année de médecine, il y avait 3650 prix. Donc vous voyez le déficit qu'on a eu à cette époque. Aujourd'hui, on est revenu à peu près à 10 000 étudiants, mais le retard accumulé ne se rattrape pas comme ça. Et donc on est encore en train de prendre du retard. Il faut que dès maintenant, on reforme massivement des personnels. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que sinon, on aura le même débat dans 10 ans. Donc ça, faut commencer par ça. Après, sur les solutions plus immédiates, il faut redonner de la marge de travail à l'hôpital public, c'est-à-dire arrêter les fermetures de lits. On en a fermé encore plus de 5000 durant la pandémie. Voilà, ça il faut arrêter ce cirque. Ces plans de restructuration qui continuent pendant la pandémie, il faut les stopper. Il faut réouvrir des lits, attirer des professionnels. Et pour attirer des professionnels, c'est un des conditions de travail. Et je le mets avant les salaires, parce que c'était là-dessus que les luttes à l'hôpital ont démarré, sur les conditions de travail. On ne peut plus retrouver des brancards partout dans les urgences, et pour ça, il faut qu'il y ait des lits d'hospitalisation. On ne peut plus avoir du matériel obsolète. On ne peut plus avoir des locaux complètement dépassés. Il y a un grand plan de réhabilitation des hôpitaux à faire. Donc voilà. Et puis, il y a après la question des salaires. Parce que ce n'est pas possible. Ça fait des années et des années que le point d'indice est gelé. Nos infirmières étaient... Il y a eu un classement de l'OCDE, elles étaient 23e. Voilà, derrière les Mexicaines, derrière... Faut mesurer ce que sont les salaires. Et aujourd'hui, la France est un des pays, et le pays de l'Union européenne, qui reçoit le plus d'argent de l'étranger. Ça, c'est pour un petit clin d'œil à Arnaud Montebourg, qui voulait interdire les transferts, qui fasse attention quand même. Nous sommes ceux qui recevons le plus d'argent de l'étranger, et étonnamment, beaucoup depuis la Suisse. Parce que tout un tas de professionnels de santé travaillent en Suisse. Les infirmières gagnent trois fois plus qu'en France. Donc les frontaliers vont là-bas. Et à un moment donné, il faut permettre à ces gens de revenir travailler dans nos hôpitaux. il faut leur permettre de ne plus partir sur de meilleurs salaires dans des structures privées pour les réattirer. Donc il y a cette question des revenus, et ce n'est pas l'aumône du Ségur qui va changer les choses. Donc c'est un...
Je m'excuse, je ne comprends pas pourquoi la France reçoit le plus d'argent.
C'est parce que ces infirmières, tous les frontaliers qui travaillent là autour,
les frontaliers,
réintègrent cet argent dans notre pays.
Voilà.
Et c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'on est le seul pays en Europe à avoir cette situation. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire sur les revenus de ces professionnels. Il faut vraiment un Grenelle, pas un Ségur. Il faut revenir à 68 là, sur le niveau de négociation. La CGT, dont je fais partie, demande un collectif budgétaire de 50 milliards pour gérer ces problématiques-là, en plus du budget de la Sécurité sociale. Alors, pour la première fois cette année, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne nous fait rien perdre, puisque par le passé, nous perdions environ 2% par an. Il ne nous fait rien perdre. C'est bien le moindre qu'il ne nous fasse rien perdre, mais il ne nous donne rien. C'est-à-dire que tout ce que nous avons perdu n'est pas rattrapé. Or, nous voyons bien que l'hôpital est en cette situation catastrophique. Et puis après, il y aura, oui, d'autres mesures, moi, que je partage, qui ne font pas l'unanimité chez les médecins, mais c'est des choses à mettre en débat, sur la régulation des installations. Parce que, oui, dans le cadre d'une urgence, il faut, je pense, réguler les installations. Alors, pas pour dire vous devez aller là ou là, mais nous avons un outil pour ça, la sécurité sociale. La sécurité sociale sert à donner des soins, entre autres, elle sert à couvrir tous les risques de la vie, mais pour ce qui concerne la santé, à donner des soins à notre population, elle ne sert pas à assurer un salaire de professionnel de santé, mais à donner des soins. Et donc, elle peut décider de conventionner ou pas des médecins ou des infirmières suivant les besoins que nous avons sur le territoire. Et je pense que la Sécu doit retrouver ce rôle de régulateur, finalement, de l'installation, plus que par un système qui pourrait être injuste. Voilà, celui-là, ce sera un système public clair. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, moi, je ne partage pas le fait d'envoyer les jeunes médecins en mission à la Cambrousse, en gros, comme on a vécu. Non. Si on veut envoyer des médecins dans des zones rurales dont ils n'ont pas l'habitude, ça veut dire qu'il faut un centre de santé, voilà, avec des professionnels divers, qu'ils soient en équipe, qu'ils aient des horaires raisonnables, parce que sinon, ça ne marchera pas. Les conditions de travail des jeunes médecins, que demandent les jeunes médecins, ne sont plus les mêmes que celles qu'acceptaient les médecins il y a des années. Et puis, de toute façon, le métier a changé. On ne connaît plus toute la médecine. La médecine a heureusement beaucoup évolué. Le moment où le médecin libéral était capable de tout gérer, s'est dépassé. Ouais. Il faut travailler en réseau, en équipe, et le centre de santé est l'outil idéal pour ça.
Et il assure aussi la formation.
Bien sûr.
Voilà. Ça, je le répète à chaque fois, mais
donc
c'est
vrai. On aura toutes ces mesures à prendre. Ça, c'est pour la ville. Et puis après, il y a une question, là encore. Elle ne va pas faire l'unanimité, mais il faut qu'on aille au bout des débats. Nous avons aujourd'hui des structures privées à but lucratif. Alors, il y a des structures privées participant au service public à but non lucratif. Moi, je pense qu'elles ont leur place, celles-là, dans le paysage d'offres de soins. Après, les gens veulent du privé ou du public, c'est pas moi d'en décider. Je veux dire, qu'ils fassent... Par contre, là où je commence à être franchement gêné et très opposé, c'est sur le structure privée à but lucratif avec des actionnaires derrière. C'est un conflit d'intérêts terrible que d'avoir des actionnaires sur des questions de santé. Et là, je pense que ce type de structure ne doit pas exister en France. Et que nous devons avoir là une intervention extrêmement forte et récupérer d'ailleurs une bonne partie de ces professionnels pour des structures PSPH ou publiques. Il y a des pays qui ne l'autorisent pas. Hein. Les États-Unis n'autorisent pas. Les États-Unis, c'est quand même... C'est pas la Chine. Hein. N'autorisent pas que des actionnaires soient dans la structure d'un hôpital. Ce sont des fondations. Alors après, il y a d'autres techniques pour faire de l'argent. Hein. Les assurances sont une autre technique aux États-Unis. Mais par contre, ils considèrent que ce n'est pas éthique. Et nous, en France, ça ne nous pose aucun problème. Bah, moi, ça m'en pose un.
Ah ouais, ça, je ne savais pas,
non,
moi.
Non.
Je savais bien qu'il y avait des structures privées. Mais... que forcément, elle faisait de l'argent, parce que, bon, on a assez parlé de la polyclinique Synco, mais des dépassements d'honoraires. Mais est-ce que ça implique forcément des actionnaires? Alors là, je tombe de...
Les grands groupes de santé sont extrêmement rentables, et sont des actionnaires. Et on a la même problématique sur les EHPAD.
Ah oui. Eh ben...
On peut dire aussi qu'au Ségur de la Santé, la Fédération des centres de santé n'était pas invitée. Comme par hasard.
Oui, mais c'est dommage, en effet.
Voilà, voilà.
Eh bien, écoutez, moi, j'avais ces questions-là. Je vais laisser un peu la parole à mes deux collègues sur d'autres problèmes concernant aujourd'hui la pandémie et
la télémédecine aussi. On nous a beaucoup parlé de la télémédecine lors de notre entretien avec le président de la communauté de communes. Donc, lui, il voit beaucoup de petites cabines avec la télémédecine. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ?
D'une infirmière.
La présence d'une infirmière. Infirmière, pas spécialement...
Pratique avancée,
c'est à peine précisé, ça. Bon, pratique avancée, d'accord, on va l'estimer comme ça. Ouais.
En fait, moi, j'utilise déjà la télémédecine. C'est-à-dire que je travaille aussi dans une prison, parce que je fais aussi de la médecine pénitentiaire, je ne suis pas qu'aux urgences, où, pour des raisons évidentes d'extraction, de difficultés, on a recours à des interventions en télémédecine. C'est une technique utile. Mais là encore, c'est comme l'ambulatoire, on en parlait à la dernière émission, il faut savoir pourquoi faire. Ce n'est pas une bonne technique, à mon sens, pour le suivi courant par le médecin généraliste. Quand je vois les prisonniers, puisque j'ai un rôle de médecin généraliste pour les détenus, je ne les vois pas en télémédecine. Je les vois dans mon cabinet. Ils viennent consulter. Je peux les toucher, les examiner, sentir ce qui ne va pas. Enfin, voilà. Et honnêtement, par écran, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, qu'on se rajoute une expertise en télémédecine, que j'ai besoin d'un avis de l'orthopédiste qui voit mon patient, sa radio, et qui peut guider mon examen, que je me rajoute une expertise en dermatologie. Je fais cette expérience avec un dermatoscope sur lequel les images arrivent. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, là encore, c'est un élément supplémentaire qui peut nous aider à faire de la qualité, et il faut l'utiliser comme tel. Mais penser qu'il pourrait remplacer le contact humain et le contact entre le patient et son médecin in vivo, je dirais, on pousse le bouchon un peu loin. On déshumanise complètement la médecine. Or, la médecine, si était une science exacte, ça serait. Non, c'est aussi une science humaine. Et le contact entre les gens est déterminant, surtout, entre le professionnel et le patient.
Surtout pour les personnes du troisième âge.
Particulièrement, voilà. En effet. Particulièrement. Après, il ne faut pas condamner cette télémédecine. Il faut juste bien la mettre dans le cadre où elle doit rester, c'est-à-dire un ajout de qualité, un ajout d'expertise, mais pas le cœur de la relation entre le patient et le médecin.
Oui, alors moi, docteur, ce qui me disait au départ, ce qui m'interpelle, c'est quelques chiffres qui concernent à la fois le national et l'Oise à propos de la pandémie. Alors moi, je constate que l'Oise, en taux d'incidence, est nettement en dessous du taux national. D'une part, donc on peut a priori se demander pourquoi, alors que d'habitude on était plutôt au-dessus. Et puis j'ai constaté aussi, sur une semaine par exemple, que la tension hospitalière était de 53%. Et hier j'ai regardé les mêmes chiffres, donc pour notre département, elle est à 42%. Et apparemment aussi, le nombre d'hospitalisations et de réanimations ont légèrement diminué dans l'Oise par rapport à la semaine dernière. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres?
Alors, je ne vais pas vous faire une explication complète, mais il y a des endroits où on est beaucoup plus monté en taux d'incidence, y compris simplement parce qu'il y avait de grands rassemblements, particulièrement jeunes, avec des gestes barrières moins respectés, parce que, au bout de 2 ans, tout le monde en a marre, hein, quand même concrètement, et je n'irai pas jeter la pierre. Mais il va falloir malgré tout refaire un effort, parce qu'en effet, on a une nouvelle vague qui est en train de se relancer, puisque a priori, ce Covid, c'est plus a priori maintenant, ce Covid a un tropisme saisonnier. Donc on est quand même en train de repartir là sur une vague. Alors pour l'instant, le retour dans l'Oise, c'est qu'en effet, on a peu d'hospices. On en a retrouvé. Je discutais avec ma conjointe, qui est infirmière aux urgences, donc, qui était de garde récemment. Elle a vu revenir des patients Covid. On n'a pas beaucoup de formes graves. La vaccination est passée par là. Les gens vaccinés ne font pas de formes graves. Alors, on en a quand même chez les vaccinés quand il y a des grandes comorbidités, particulièrement les patients immunodéprimés, qui ne sont plus très protégés par le vaccin, et donc qui peuvent faire des formes graves, ou des patients âgés dont les deux premières doses ont été faites il y a longtemps. D'où cette logique du rappel troisième dose. Donc on a ça, mais l'essentiel du problème, ce sont des patients non vaccinés qui font des formes graves. Et je regardais ce matin, il y avait une émission ce matin avec le patron de la Réa, je crois que c'était de la Pitié, qui disait que l'essentiel quand même chez lui, c'était non seulement des non vaccinés dans sa Réa, mais surtout beaucoup plus jeunes que les autres patients. On était plus dans la cinquantaine à soixantaine, alors que chez les vaccinés, on était plus âgés.
J'ai constaté aussi dans l'Oise là, que le taux de 0 à 9 ans, il est de 140. Mmh. C'est énorme. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt faiblard. Le taux d'incidence chez les plus jeunes, on voit que ça explose aussi chez les plus jeunes.
Bah, ça a été la question, une des questions posées par variant Delta et le fait qu'il touchait plus les enfants. Et puis après, il y a aussi des biais, il faut faire attention, c'est qu'on ne testait pas trop les enfants. Quoi. Quand même, il y a aussi ce biais-là. C'est, on a la même problématique qui nous est posée aujourd'hui avec le variant Omicron. Je dirais pas Omicron, hein, Omicron. Voilà. Le variant Omicron, là, dont tout le monde parle, en fait, on ne sait rien sur lui. Hein. On sait qu'il est contagieux, parce que vu la vitesse à laquelle il s'est répandu, voilà, on sait ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'entrée dans les hôpitaux sud-africains. Donc, est-ce qu'il est bénin? Ou est-ce que c'est un biais parce que les premiers qui sont contaminés sont les jeunes et qui font des formes bénignes? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il est peut-être grave, mais ce ne sont que des jeunes qui l'ont chopé, on n'a pas de forme grave. Ou il est bénin, alors là, ce serait quand même le top. Si on a une forme très contagieuse et bénigne, elle est capable de remplacer le Delta et de nous faire une épidémie de rhume. Ce serait parfait. Alors bon, là, je rêve un peu, mais parfois, on peut avoir un peu de chance. Hein, on ne sait pas. Donc, c'est peut-être une très bonne nouvelle. C'est peut-être une très mauvaise nouvelle. Et voilà, la très mauvaise nouvelle, ce serait qu'il soit aussi dangereux que le Delta avec une contagiosité accélérée. Et bon.
Vous confirmez ce que disent vos collègues sud-africains, en fait.
Ah, exactement, il faut les écouter. C'est des gens qui ont fait non seulement le séquençage, d'ailleurs ils en sont assez punis comme ça, je trouve qu'on a une attitude qui n'est pas raisonnable, mais voilà, ce sont les premiers, et il y a un beau réseau de médecins en Afrique du Sud qui nous donnent les observations, il faut absolument les écouter. Après, la crainte évidemment de tous, mais on ne peut pas le dire pour l'instant, ce serait qu'un des variants transperce la barrière immunitaire du vaccin. Et ça, on va avoir toujours cette multiplication de variants tant qu'on n'aura pas vacciné le monde entier. Et il y a une urgence à libérer les brevets qui aujourd'hui sont détenus par les Big Pharma, parce que si on libérait ces brevets, on pourrait produire ces vaccins partout où on a une structure industrielle. Et ça fait pas mal de... Enfin, on aurait la capacité d'en produire pour tout le monde.
Oui, ce que je constate aussi, c'est que, en fait, ce coronavirus, il agit un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de muter. Et on risque fort d'être obligé, comme pour la grippe, de refaire des rappels tous les ans ou tous les deux ans pour se mettre à jour. Quoi.
Alors, il mute moins que la grippe. Mais là, on ne va pas refaire tout le cours sur les mutations des virus. La grippe, c'est vraiment un cas très particulier avec des mutations extrêmement fortes. Le coronavirus, c'est un virus qui mute relativement correctement. Mais comme les autres, il mute. Mmh. Et plus on a de réservoirs à virus, plus on a de variants. C'est pour ça que l'épidémie... va continuer tant qu'on n'aura pas vacciné. Pour arrêter les variants, il faut vacciner. Et pour vacciner, il faut que le vaccin soit libre de droit pour être distribué partout.
Y compris les plus jeunes.
Alors, c'est un débat pour l'instant sur lequel je ne sais pas vous répondre.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ah oui, mais là, il y a des choses, je ne peux pas tout savoir. Il y a des choses qui sont en train d'être discutées par nos épidémiologues et par nos infectiologues. Ils sont bien meilleurs que moi et je vais attendre là d'avoir leurs conclusions parce que là, je m'avancerai sur des choses qui sont hors de ma compétence.
Le centre de vaccination de Crépy, on est à 55 500 à peu près injections pour toute la communauté de communes à peu près. Quoi. Par contre, je voulais dire que... En sortant de l'hôpital de Compiègne mercredi, il y avait des manifestants contre les vaccins avec des pancartes sur la rocade. Ça m'a un peu effrayé, ces gens qui se baladent avec... L'hôpital de Colmar a été interviewé hier. J'ai entendu que toutes les personnes hospitalisées étaient non vaccinées, systématiquement.
Pour l'essentiel, c'est vrai. Je vous ai dit, il y a quelques cas quand même.
Chers amis, merci de votre écoute. Donc, vous pouvez nous réécouter le mardi à 13h, le jeudi à 16h, le samedi à 10h30 et en podcast sur le 93.7 RVM. À votre santé. Au revoir.
Au revoir.
Merci, docteur.